Radio Libertaire, la voix de la Fédération anarchiste, oui. Le 89.4 FM, www.radio-libertaire.net, que vous pouvez soutenir avec une carte d'auditeur. Carte d'auditrice, ça se passe du côté de la librairie du Monde Libertaire, au 145 de la rue Amelot. Vous avez également la souscription des amis de Radio Libertaire, amis avec un E et 100, ça se passe sur radio-libertaire.org. Vous avez enfin les autocollants qui sont magnifiques et le bouche à oreille, c'est pas mal aussi, ça aide à faire connaître les programmes de Radio Libertaire tout autour de vous. Dans quelques secondes, le Ferry Club, bien évidemment en direct.
C'est ça. En l'an 2000, plus de musique.
Sur Radio Libertaire, en direct, 89.4 FM, la voix de la Fédération anarchiste.
Bonjour à toutes et à tous. Le Ferry Club, c'est parti en direct, bien évidemment, Radio Libertaire 89.4 FM.
La Radio Libertaire 89.5.
Oui.
Non.
La musique, où elle était la musique? Dans les salons lustrés aux lustres vénérés, dans les concerts secrets aux secrets crinolines, dans les temps reculés aux reculs empaffés, dans les palais conquis aux conquêtes calines. C'est là qu'elle se pâme, la musique. C'est là qu'elle se taire, la musique.
Nous,
c'est dans la rue qu'on la veut, la musique. Et elle y viendra. Et nous l'aurons, la musique. Nous, essaye, espoussaille. C'est là dont il est. C'est là, est. Depuis voilà bientôt 30 ans. Depuis voilà bientôt 10 jours. Depuis voilà bientôt ta gorge, depuis voilà bientôt ta source, depuis que je traîne ma course au creux des nuits, on m'a forcé à patibuler mon écorce. Nous c'est ça, est-ce nous ça, cela doit-il être, cela est. Je suis un arbre non daté, depuis que je bois à ma porte, et que de l'enfer tu m'apportes, de quoi trancher sur l'avenir. Depuis que rien ne se dévore, à part les ombres sur le mur, depuis que tu me sers encore la défaite sur canapé. Moussessagne, est-ce Moussagne? Cela doit-il être? Cela est! Une araignée m'a dit bonsoir, et se traînait au crépuscule. Depuis que mon âme bascule sur des pays plus mécaniques, depuis de gavés de musique, je vais porter ma gueule ailleurs. Une araignée m'a dit d'ailleurs, le tout c'est d'avoir la pratique. Moussessagne, est-ce Moussagne? Ludwig, t'es sourdingue? Ludwig la joie, Ludwig la paix, Ludwig, l'orthographe c'est con, et puis c'est d'un très haut panache, et ton vin rouge a fait des taches sur ta portée des contrebasses. Ludwig, réponds, Ludwig, réponds, t'es sourdingue ma parole, ou c'est ça, est-ce que ça? La musique, la musique. Où est-elle aujourd'hui? La musique se meurt, madame. Penses-tu? La musique, tu la trouves à Polytechnique, entre deux équations, ma chère, avec Boulez dans sa boutique, un ministre à la boutonnière. Dans la rue, la musique. Dans la rue, la musique. Music in the street.
La musica nelle strade. Beethoven Strass. Où c'est ça? Est-ce que ça? Dans la rue, la musique. Dans la rue, la musique.
Ferré Club, votre tranche hebdomadaire de Léo entre 16h et 17h sur Radio Libertaire, la voix de la Fédération Anarchiste. En direct, bien évidemment, bonjour à toutes et à tous. Nous venons d'entendre Mousses Zayn. Es Mousses Zayn, cela doit-il être, cela est, bien évidemment. Ravi de vous retrouver, nous allons passer cette heure ensemble avec le grand plaisir de vous proposer aujourd'hui le deuxième, entre guillemets, épisode de Benoît Misère. Benoît Misère qui est à l'origine un roman de Léo, qui ensuite a été s'est retrouvé entre les mains de l'ami Luc Baba, lequel a beaucoup lu, a beaucoup aimé, en a fait, a voulu en faire quelque chose. Il a ensuite croisé la route d'Hélène Weissenbacher. Ils ont fait ensemble un spectacle intitulé Benoît Misère, et en parallèle, non pas tout à fait en parallèle, disons pour permettre un aboutissement, un enregistrement propre de ce spectacle, eh bien ils sont rentrés en studio pendant quelques heures, quelques jours peut-être, pour coucher, j'allais dire par écrit, mais enfin en tout cas au propre, l'interprétation de ce spectacle Benoît Misère, un superbe enregistrement d'une heure et quart que Luc et Hélène m'ont confié, et j'en suis vraiment honoré et flatté. La semaine dernière, je vous ai proposé le premier épisode, entre guillemets, hein, parce qu'il n'y a pas d'épisode, le découpage a été fait pour des raisons de diffusion dans cette émission. Et aujourd'hui, eh bien, nous écouterons, bien évidemment, hein, ça tombe sous le sens, le deuxième épisode. Je vous proposerai dans quelques instants une petite revue de presse concernant le tome 5 de l'intégrale Léo, intitulé Le chemin d'enfer, et paru le 17 janvier dernier. Avant cela, je vais rester avec Luc et Hélène pour vous annoncer un concert qui aura lieu demain. Demain, à la Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg, aura lieu une représentation justement de ce Benoît Misère proposé par Hélène et Luc. Ça aura lieu à 19h très précise à la Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg, qui se trouve, j'ai pas l'adresse précise, quoique je l'ai peut-être sur un petit document que j'ai probablement avec moi. Attends, je consulte ça tout de suite. Vous donnez peut-être là une information parmi tant d'autres, c'est que j'aurai le plaisir d'être présent à cette représentation. Non, je n'ai pas d'adresse précise, hein, malheureusement. Je serai là avec pour soutenir Hélène et Luc avec plaisir, hein, bien évidemment. Donc demain soir à Strasbourg à 19h, donc à la Bibliothèque Nationale Universitaire, demain soir une représentation de ce Benoît Misère, spectacle conçu et réalisé par Hélène Weissenbacher et Luc Baba. Je vous le disais, on va parler de l'intégrale du tome 5, de l'intégrale dans quelques instants. Alors ce tome 5 de l'intégrale qui nous est paru récemment, hein, le 17 janvier, et il se trouve dans cette intégrale qu'il y a une nouvelle version d'une chanson que nous aimons énormément par ici, qui s'appelle « Monsieur Tout Blanc ». Cette radio n'a ni Dieu ni maître, cette émission est particulièrement anticléricale, je dois bien le répéter de temps en temps, hein. Ça fait du bien quand même de vivre sans Dieu, de vivre sans maître, de vivre sans autorité, hein. Ça fait vraiment du bien. Donc une nouvelle version de Monsieur Tout Blanc, bien évidemment, on pouvait pas passer à côté, hein. Donc la voici tout de suite.
Monsieur Tout Blanc, vous enseignez la charité bien ordonnée. Dans vos châteaux en Italie, Monsieur Tout Blanc, la charité, c'est très gentil. Mais qu'est-ce que c'est? Expliquez-moi. Pendant ce temps-là, moi je vis à Aubervilliers. C'est un petit coin perdu au bout de la misère, où l'on n'a pas tellement de questions à se poser. Pour briefer, faut bosser, mon petit père. Monsieur Tout Blanc, l'oiseau blessé que chaque jour vous consommez était d'une race maudite. Monsieur Tout Blanc, entre nous dites, rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, vous taisiez. Pendant ce temps-là, moi je vivais à Aubervilliers. ça n'était pas l'époque à dire des rosaires. Il y avait des tas de questions qu'il fallait se poser. Pour durer, faut lutter, mon petit père. Monsieur Toublant, si vous partez un beau matin les pieds devant, pour vos châteaux en paradis, monsieur Toublant, le paradis,
c'est peut-être joli.
Priez pour moi, moi, j'ai pas le temps. Car je vivrai toujours à Aubervilliers, avec deux bras noués autour de ma misère. On n'aura plus tellement de questions à se poser. Dans la vie, faut s'aimer, mon petit père. Monsieur Toublant, si j'enseignais la charité bien ordonnée dans mes châteaux d'Aubervilliers, monsieur Toublant, ça n'est pas vous que j'irai trouver pour m'indiquer ce qu'il faut donner.
Monsieur Toublant avec Léo au piano, ça fait du bien d'entendre. Alors c'est pas forcément la version la plus. Pardon. Léo est un peu fatigué, on va dire à ce moment-là. Hein. Enfin, une nouvelle version de Monsieur Toublant dans un moment comme le nôtre, hein, la réaffirmation d'une volonté sans Dieu ni maître. Petite chanson, un brin anticlérical, ça fait toujours du bien, par là où ça passe, hein, et peut-être particulièrement en ce moment. Salut à toi, monsieur Toublant, qui se tait, qui s'est toujours tu, et qui continuera de se taire, parce que c'est le principe de toutes les mafias, et les religions sont des mafias, hein, donc voilà. Bien, alors je vous propose une petite revue de presse, quelques articles, hein, tout de même, il faut noter, quelques articles parus au sujet de ce tome 5 de l'intégrale. Il était temps, parce que il faut bien dire quelque chose, la presse avait été assez avare lors des parutions précédentes, hein, des 4 tomes précédents. Il y avait eu bien sûr quand même quelques évocations par-ci par-là, mais enfin on peut pas dire que ça ait vraiment suscité un enthousiasme particulier de la part des organes de presse. Là, il faut bien remarquer qu'effectivement on n'a pas eu énormément d'articles, hein, il faut quand même le préciser tout de suite, mais enfin on a eu quelques articles. Je vais vous parler du quotidien Le Monde, je vais vous parler du quotidien Le Figaro, je vais vous parler du site Rolling Stone Magazine. Voilà, alors commençons, et puis je vous rapporterai aussi je vous avais proposé la semaine dernière de m'envoyer un petit mail concernant ce tome 5, vos ressentis à vous. J'ai eu 2 réponses, donc je suis très content, hein, bien évidemment. Alors ce sont des amis de l'émission, mais eh bien ce sont 2 réponses quand même, qu'importe. Premier article proposé par Le Monde, intitulé « Les recherches de Léo Ferré dans la nudité de la forme piano et voix ». Voilà, un article paru le 18 janvier, donc le lendemain de la parution, signé de Sylvain Siclier, qui est peut-être le fils de Jacques Siclier, c'est pas impossible, ou son frère, je sais pas. Avec un chapeau, 5e et dernier volume de l'intégrale phonographique du musicien mort en 1993, le coffret Le Chemin d'Enfer rassemble, sur 12 CD, des enregistrements inédits. Après, il est précisé, temps de lecture, 3 minutes. C'est absolument abject, ça. Temps de lecture, 3 minutes. C'est-à-dire que si t'as 3 minutes, hein, entre deux oppressions, entre un RER et un patron qui t'engueule, entre ton compagnon ou ta compagne qui te fait chier, voilà. Si t'as 3 minutes, eh bien, c'est calibré, tu as le temps de lire un article du Monde. C'est génial, on t'indique au début, quoi. Si tu sais que t'as que 4 minutes, tu vas pas le faire. Si t'as 2 minutes 30, tu dis, est-ce que ça vaut le coup? Qu'est-ce que je vais faire de mes 30 secondes restantes? Tu sais pas. Et puis, bah, tu te dis, bah, tiens, c'est pile 3 minutes. C'est exactement ça, 3 minutes, parfait, bah, je vais lire cet article du Monde. Bien, alors un petit descriptif, je vais vous lire quelques extraits, hein, voilà. Dans le livret du coffret de 12 CD, Le Chemin d'Enfer, les enregistrements posthumes, commercialisé le 17 janvier, il est indiqué qu'ils n'étaient pas, lors de leur réalisation, destinés à la publication. Pour ce 5e et dernier coffret de l'intégrale phonographique de Léo Ferré, 1916-1993, supervisé par son fils Mathieu et par Alain Rémacker, spécialiste du répertoire de Léo, un spécialiste, ah, sans proposer des versions de travail, maquettes, essais plus ou moins accomplis, ébauches prometteuses, titres inédits en devenir. Là, c'était entre guillemets, hein, ils reprennent, enfin, Sylvain Siclier reprend ce qu'il y a dans le livret. Alors, il s'agit d'un complément à une collection d'envergure, commencée par la publication en 2018 d'un volume consacré aux années 50, avait suivi deux coffrets de la période la plus connue du grand public, de 60 à 74 pour Clébard, paru respectivement en 2020 et 2021, puis celui en 2023 revenait sur les dernières années de la production phonographique de Léo Ferré, de son vivant, notamment chez CBS, RCA et EPM. Dans le présent ensemble, alors là cette fois-ci il revient un peu plus précisément sur l'objet dont il parle, dans le présent ensemble on entend Ferré en recherche au travail, souvent chez lui, au domaine de San Donatino, à Casellina in Chianti, à mi-chemin de Florence et de Sienne. Il s'y était installé en 71, parfois dans un studio pour ses essais, par exemple à Milan en 88, ou dans divers domiciles avant le départ pour l'Italie, le son est parfois sourd, qu'importe. Dans la quasi-totalité des cas, ce sont des interprétations piano et voix acoustique. À l'occasion, Ferré utilise son piano électrique, un orgue, très bien. À deux ou trois reprises, l'Orchestre Symphonique de Milan est mis à contribution. Ainsi, la composition Métamec, dans l'album éponyme qui ouvre ce coffret et qui avait déjà été publié en 2000. Le journaliste ne précise pas que certains titres sont dans une facture inédite, dans une version inédite, hein, comme la méthode, bien évidemment. Tout comme ont été réédités ici quatre précédentes publications posthumes, les sept autres albums sont le résultat de nouvelles trouvailles, documents qui, comme dans les autres albums posthumes, ont parfois des dates imprécises, de la fin des années 50 à la fin des années 80. Des notes manuscrites laissent penser que tel ou tel titre pouvait être destiné à un projet d'album. Voici Léo Ferré dans l'hommage aux poètes, à Verlaine et à Rimbaud, avec chacun un volume intitulé « Maudit soit-il ». À Baudelaire dans Les Fleurs du Mal, Suite et Fin, à Apollinaire dans Guillaume, vous êtes toujours là, dans les années 50, 60 et 70, il avait déjà mis en musique leurs poèmes, les a chantés et des disques en avaient rendu compte. Il les chante à nouveau, encore et encore, respectueux dans un rapport texte et composition, peut-être venu dans l'instant où Ferré enclenchait son magnétophone, ou bien longuement travaillé en amont. Si l'on connaissait déjà dans sa belle nudité, avec la résonance du piano qui donne un aspect orchestral, l'album « Je parle à n'importe qui », paru initialement en 2018, on découvre un document de travail de « La nuit ». Bande miraculeusement retrouvée sans date. Ferré parle et chante, habite ses textes. Pardon. L'on imagine ce que les orchestrations et arrangements y auraient apporté, mais en l'état, ce sont de grands moments. Alors, j'ai une proposition à Sylvain Siclier d'écouter l'Opéra du Pauvre, par exemple. Comme ça, il pourra se rendre compte de ce que ça peut donner une fois orchestration et arrangement composés. C'est pas mal. Écoute, c'est pas mal, tu vois. Comme le sont les chansons des premières années que Ferré souhaitait réenregistrer et arranger, qui se trouvent dans Les Copains de la Neuille, Ferré leur donne une inflexion vocale différente en explorant les courbes harmoniques et mélodiques. Dans Le Chemin d'Enfer, le disque Le Chemin d'Enfer, l'on avance entre inédits et ébauches de chansons qui seront développées dans des albums. Mes pianos, donc c'est l'album, enfin c'est le sous-album, un album qui est inclus dans cette intégrale. Mes pianos rassemble des interprétations au clavier, sans voix, ici et là juste un murmure, un semblant de mélodie chantée. D'autres noms de la littérature, Villon, La Bruyère, Molière, cause extrait du Misanthrope, le personnage d'Alceste, comme s'il se fût agi de son double, envisage le livret, sont dans le disque La mémoire des étoiles. Enfin, pour conclure par là même cette somme en 5 coffrets, le CD numéroté 80 est constitué d'extraits de passages dans les émissions de radio, de concerts. Son titre, Vous savez qui je suis maintenant, l'on peut, à l'écoute de toute l'intégrale Ferré, en faire une affirmation, un artiste au plus haut dans le patrimoine de la chanson. Voilà. Donc c'est un article sympathique, mais enfin assez descriptif. Hein. Il y a malheureusement pas beaucoup d'éditorialisation, c'est un peu dommage, mais enfin c'est à peu près ce qui a été fait. À l'heure actuelle, on peut pas dire que ça se mouille énormément dans la presse, puis alors dans le journal Le Monde, on peut pas dire que ce soit vraiment... Aïe. Enfin, passons. Oui, enfin... Bon, allez, passons, parce qu'on va pas évoquer le fait que Le Monde fait la promotion de l'anthroposophie, par exemple. On va pas le faire, là, maintenant. Ce sera pas le même. Allez. On va passer au journal Le Figaro. Alors c'est pareil, là c'est vraiment pas très intéressant. Il y a un article, une série d'articles en fait, qui reprend les parutions, qui est tenue par un journaliste qui s'appelle Olivier Nuc. Et il a très humblement intitulé son article récurrent. Il tient une tribune dans le journal Le Figaro, Olivier Nuc. Il a humblement appelé sa tribune le Nuc plus ultra. Et il nous parle donc des différentes parutions discographiques du moment. Il parle donc de Mathieu Bogart et les ultimes inédits de Ferré. Il en fait un petit paragraphe. Cinquième et ultime volume d'une intégrale déclinée en coffret exhaustif, ce recueil présente le travail publié après la mort de Léo Ferré en 1993. Une remarquable anthologie réalisée avec un soin maniaque par son fils Mathieu, qui rend ainsi hommage à son génie de père, puissante figure de la chanson française classique dont on n'a pas fini de mesurer l'influence. C'est limite plus éditorialisé déjà, mais bon. Hein. Soit 12 albums dont 7 sont totalement inédits, 206 chansons dont 56 n'étaient jamais sorties auparavant. Ils ne sont pas allés jusqu'à chronométrer la durée, hein. C'est bien de nous donner des chiffres, comme ça c'est intéressant de savoir qu'il y a 206 chansons. Si on n'a qu'une et qu'elle est très bien et qu'elle te parle au cœur, ça suffit, non? Mais bon, on va quand même donner du chiffre. Hein. 206, 56 n'étaient jamais parus. Allez, reprenons. Un véritable trésor pour les fans. Wouh! On trouve ainsi les maquettes du troisième recueil de mise en musique des Fleurs du Mal, prévu pour 77 et finalement enregistré par Jean-Louis Murat en 2007. Mais aussi du Apollinaire et des versions méconnues tirées de séances pour la radio ou de concerts. Cette somme porte à 80 le nombre de CD consacrés à cet édifice qu'est l'intégrale de Ferré. Donc voilà, c'est un article du Figaro avec plein de chiffres, hein, forcément, puisque ça plaît quand même, les chiffres assez tenants du capital. Lorsqu'on est un tenant du capital, on aime bien les chiffres. Un dernier article, alors Le Monde a repris un peu plus tard, ils ont fait un petit paragraphe dans les parutions, il y a quelques jours, enfin c'était quand même un article beaucoup moins long, c'était juste une petite évocation rapide. Le journal Le Télégramme aussi a fait pareil, hein, une petite évocation rapide, je vous le mettrai pas en lien. Parce que ça vaut pas le coup, quoi. On nous signale la sortie d'un album, bon, très bien, intéressant. Bon. Troisième article, Rolling Stone, signé de la rédaction, et je présume qu'une certaine Alma n'y est pas pour rien, donc je salue Alma par cette même occasion. Léo Ferré, un nouveau coffret. Le Chemin d'Enfer réunit 12 disques d'enregistrement du défunt chanteur Léo Ferré avec plus de 50 morceaux inédits. Là, pareil, un petit article assez descriptif, enfin rapide, dont je vous donne juste peut-être le premier paragraphe. Chanteur qui a marqué durablement le paysage musical français, Léo Ferré continue de faire l'objet de sorties conséquentes. Vendredi 17 janvier est sorti le cinquième volume de l'intégrale de ses œuvres, intitulé Le Chemin d'Enfer, en référence à un poème éponyme du chanteur. Ce nouveau coffret comprend 206 morceaux, dont 52 inédits. Ah, je vérifie chez le Figaro ce qu'ils nous disent, 206, 56 inédits chez le Figaro, hein, c'est bien ce qui me semblait. Répartis en 12 CD, ces disques contiennent des documents sonores retrouvés dans les archives de Léo Ferré, pour la plupart en l'état de maquette. On y retrouve notamment un disque de pistes instrumentales, une collection de poèmes de Guillaume Apollinaire mis en musique, un disque intitulé La Nuit, comprenant des versions alternatives inédites qui deviendront par la suite l'Opéra du Pauvre. Merci Alma. N'oublions pas non plus des extraits de ces archives radio et d'enregistrements live. Ce coffret conclut ainsi un travail d'archives titanesque, passant en revue l'ensemble de l'œuvre du chanteur français dans des versions restaurées. Les quatre autres coffrets s'intitulent La vie moderne, l'âge d'or, la solitude et la marge. Le cinquième permet ainsi d'élever le nombre total de cette anthologie à 80 disques. Voilà. Après quoi, il y a dans cet article vraiment une description titre par titre, la tracklist, comme l'on dit, de chacun des CD. Hein. Donc ça, je sais pas si ça apporte vraiment quelque chose d'intéressant. Enfin, ça peut apporter quelque chose de pas mal à celles et ceux qui veulent connaître le contenu, on va dire, de manière exhaustive. Voilà, c'est pas mal. Donc je salue Alba, que j'embrasse. Voilà, en ce qui concerne les articles... Ah non, non, une autre évocation aussi qui a été faite par... comment s'appelle-t-il ? Ah, Pierre Lescure. Pierre Lescure qui est l'ancien dirigeant de la chaîne Canal+, qui maintenant est chroniqueur sur une émission qui s'appelle... C'est à vous, qui s'appelle C'est à vous, il y a quelques temps de cela, eh bien, il tient une petite chronique hein, tous les jours, je pense qu'il parle de culture, et la chronique c'était le Grand Ferré, l'intégrale, et donc pendant 4-5 minutes comme ça, il parle de cette intégrale, de ce cinquième tome, hein, Le Chemin d'Enfer, l'intégrale Léo. Je vous mettrai en lien, bien évidemment. Alors j'ai reçu aussi un mail de l'ami Raphaël Dovelos, qui me... Je vous remercie, hein, salut Raphaël, merci pour ton mail, qui m'a dit avoir été très touché particulièrement par le Guillaume, vous êtes toujours là. De toute façon, il a toujours été très sensible au poète mis en musique, il nous l'avait dit hein, lors de son passage, effectivement, lors de son passage dans l'émission, Raphaël. Et puis la version de la méthode, pareil. Hein, mais c'est la méthode et Métamex sont des textes qui le bouleversent particulièrement dans ce coffret. Je vais laisser la place à Luc dans quelques instants, mais vous dire aussi que David No, l'ami David, membre du Fairy Club, bien sûr, qui m'a envoyé un petit mail très long, celui-ci, hein, qui me dit, qui me fait part de sa tristesse de ne plus avoir de coffret à attendre. Effectivement, il y avait une petite... On était quand même... on aimait bien, comme ça, avoir les nouvelles parutions, etc. Bon, alors voilà. Il y a cette petite tristesse, mais compensée, très largement compensée par le plaisir de redécouvrir certains morceaux qui ne sont pas inédits, mais qui sont sublimés par le travail de restauration effectué à l'occasion de ce tome 5, me dit David. Et puis, les documents totalement inédits, qui sont très nombreux, et il me dit que ça l'a requinqué. Il me dit précisément, ça m'a requinqué pour les petits moments de fatigue et dans la sinistreuse ambiance que nous imposent les politiciens du monde entier avec leurs aboiements et leurs déchets anti-humains. Et ouais, absolument, déchets anti-humains, tiens, ça me fait penser que ça met 300 ans, entre 300 ans et plusieurs milliers d'années, les déchets nucléaires à disparaître de la surface de la Terre. pas mal. Allez, je vais laisser la place à ce deuxième épisode de Benoît Misère, Luc Baba, que vous retrouverez demain soir à 19h à la Bibliothèque Nationale Universitaire de Strasbourg. Si vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer, j'y serai, vous me faites un petit signe, je vous reconnaîtrai, on se reconnaîtra forcément, hein, c'est évident. Et on pourra se faire la bise. Bise à toutes, bise à toutes, bise à toutes, bise à toutes. Et ni Dieu ni maître, bien sûr. Ciao.
Quand j'étais môme, à la radio on jouait please, puis notre vendeur, c'est bien d'accord. Quand j'étais môme, les filles avaient une fleur exquise qu'elles nous fanaient pour de baisers. Quand j'étais môme, on avait aussi nos idole, Daniel Darieux, on ne fait pas mieux. Quand j'étais môme, on faisait marcher nos belles guiboles dans les dancing et dans le smoking. Papa, quand j'étais môme, la musique coulait comme du miel à Europe 1 sur les copains. Quand j'étais môme, les filles qui étaient encore pucelles, on les mettait dans un musée. C'était Johnny ou quoi ou qui. Quand j'étais môme, on faisait du rock et de la bricole un peu partout avec les sous de papa. Quand tu seras môme, sur des planètes distinguées, on t'apprendra le temps d'aimer. Quand tu seras môme, les filles auront la voie lactée et des comètes dans le tablier. Quand tu seras môme sur ton palier en guise d'idole, une nébuleuse ou pételgeuse, quand tu seras môme, on t'apprendra la bonne parole, la bonne recette pour jamais être papa. Il n'y aura plus de môme, plus jamais de môme, il n'y aura plus rien, pas même un chien, un pauvre chien, il n'y aura que du vent. Et plus d'amants, il y aura que la lune qui fera le tapin pour les savants, pour les savants, pour les savants.
Quant à mon père, il traînait son nom avec une infinie précaution. Misère, disait-il, misère, c'est beaucoup plus lourd à porter que mon cul. Mon cul, au moins, ça fait rire. Misère, non. Mais comment veux-tu que je demande une augmentation avec un nom pareil? Mais dès qu'on me voit chez les patrons, on m'ignore, on m'étouffe, on m'efface. Mon nom porte malheur. Comme les hiboux, j'ai des hiboux plein mon identité, mais je vais faire le nécessaire. Et il avait fini par se fabriquer 6 cubes marqués des lettres de son nom. C'était son jeu de patience. Il écumait toutes les possibilités. Simi, Céli, Sirem. Oh, Sirem. Oui, c'était assez joli. Hein, il y reviendrait souvent. Rémi. Proposa un jour ma mère.
« Oh non,
non, ça aurait mieux, non, non, ça fait un petit peu trop italien, ça fait même un petit peu juif. »
Ah non, non, mon père n'était pas raciste, mais il avait l'habitude de dire « chacun chez soi ». Le racisme chez les pauvres gens, ne conduisant jamais au lynchage, mais à une forme de ponce-pilatisme bien français. On a les mains propres dans notre pays. Un jour, les lettres tombant pêle-mêle formèrent le mot tabou, le mot destin, le mot qu'il ne fallait surtout pas trouver. Remise. Mon père l'avait soigneusement évité, contourné comme on contourne un endroit réputé dangereux, comme ça, bêtement et sans approfondir, parce que la pancarte l'ordonne. Défense d'entrée. Mais quand le destin vous parle ainsi et vous met le nez dans votre remise alors que vous pratiquez l'anagramme pour en sortir, voilà de quoi interloquer. Ce mot « remise », mon père en connaissait tout le sens. Je m'appellerai misère pour l'éternité.
Collège.
où j'ai passé les trois quarts de mon enfance ne se trouve pas en Chine, mais à une vingtaine de bornes de chez maman. J'étais aussi loin de chez maman que si j'eusse été en Chine. Voilà pourquoi je n'aime ni les voyages, ni le riz, ni les baguettes, à part celle du tambour. Dans mon collège qui se trouvait à 20 bornes de chez maman, j'étais malheureux. Le malheur moral des petits-enfants n'intéresse les parents que de fort loin. Ce soir d'automne-là, s'épanouissait dans le ciel, en petites larmes roses plissant les nuages et leur faisant une voilette, comme un filet de pêcheurs qui auraient ramené de plus loin que le large des miettes d'étoiles rouges. Ce soir d'automne-là, j'ai commencé mon désespoir. Les pires choses prennent toujours leur commencement par les yeux. On regarde son malheur avant de le prendre. Le désespoir à regarder est d'une beauté farouche. Il s'y mêle des couleurs et c'est toujours dans des ciels crépusculaires qu'il gît, qu'il se terre. Les ciels de mon enfance ont été des ciels désespérés. Et je les aime toujours, ces ciels horribles. Pour arriver à mon collège, il fallait passer une douane. J'avais 9 ans, je venais de faire ma première communion, je n'étais jamais sorti de mon pays, et j'avais 6 bananes dans ma valise. Le douanier me fouilla, il voulut prendre les 6 bananes, mais moi, je n'ai pas voulu. C'est la première grande décision de ma vie que j'allais prendre. J'ai mangé les 6 bananes à la suite, sous l'œil du douanier. Tenez, les pots, vous pouvez les garder. J'étais un homme, les larmes dans l'estomac et mon orgueil en tas de pots sur le comptoir de cet imbécile dont on me dit plus tard qu'il faisait partie de ce que l'on appelle la société. Pour arriver à mon collège, il fallait, après la douane, prendre un tramway. Adorable créature de fer et de bruit. Salut, vieux tramway vert de ma désespérance. Salut, sale convoyeur d'un petit enfant poète qui vous inventait du charme et à qui vous passiez les menottes. Salut. Vous faites un tel bruit dans ma mémoire que mon chien vient de tendre l'oreille. Salut, dormez dur dans vos linceuls de ferraille et merde à vos éclaboussures vertes sur mon petit costume marin ce soir d'automne où vous avez cessé de rouler pour moi. Pour arriver à mon collège, il fallait, après la douane et le tramway, franchir une grille où séjournait un concierge qui sentait mauvais de la bouche, mais qui vendait des oranges et qui portait des pantalons. Ah, mais les autres portaient des robes. Robe noire de mon deuil de 8 années, avec par-dessous des jupons d'homme, un sexe d'homme et une vraie maladie de la solitude. Des poches gigantesques trouaient la vertu de ces misérables et ils y farfouillaient, j'y pense aujourd'hui, tout un marécage de désirs humides. J'allais les connaître, ces pisseurs de boue quand même, ces invertébrés de l'humanité. J'allais me mettre à leur merci pendant des milliers et des milliers de secondes. J'étais coincé dans ça et j'allais sentir ça pendant 8 ans. Quelle blanchisseuse voudra de mon âme au sortir de ces cabinets? L'âme humaine, quand ça pue, c'est pire que tout, car on ne la sent pas, ça travaille par en dessous comme les microbes. Votre nom? Benoît. Benoît comment? Oui, il me disait vous, l'homme à la robe. Benoît Misère.
Qu'est-ce que c'est?
Ben, c'est mon nom, monsieur Père. Appelez-moi cher Père. Moi, je pensais à ma sœur. Quelle gueule quand je lui raconterai mes nouveaux parents. Père, mon très cher père. Fumier, mon cher fumier. Salope, très chère salope. Les grands éducateurs devraient être munis de comptes. Gégère pour détecter les vacheries. Mon compteur à moi, il aurait éclaté. Il aurait fallu changer de compteur à chaque fois. J'avais dans les yeux des pistolets d'insultes, des carabines à répéter l'insulte, des canons à bombarder d'insultes vos yeux froids comme le verre. Et mes yeux à moi, hein? Mes yeux à moi, ils étaient déjà morts. À votre abîme, je ne regarde pas les trous, mon très cher père, je m'y rentre, mon très cher monseigneur de mon calvaire, de la connerie monumentale de mon père, de m'avoir mis là pendant 8 ans, pendant mon joli temps précieux des découvertes. Je n'ai jamais rien découvert, caché, abruti, exsangue que j'étais derrière vos chairs molles. Triste, et sous vos baguettes que je prenais à genoux, les rideaux baissés, les bras comme un albatros que l'on chahute. Je vous hais, homme noir de mes découvertes.
Benoît Misère ? Numéro 113.
Je n'ai pas compris tout de suite. Je n'ai rien dit parce que j'avais peur. Mais j'ai compris peu après que l'on venait de me marquer sur ma petite laine comme on marque un petit mouton. J'entrais dans les tables de l'enseignement secondaire perpétré dans une école dite libre avec des bergers noirs qui allaient me tondre pendant 8 ans quelques pelotes de désolation. Ce numéro 113, on allait en marquer tout ce qui était moi. Mes livres, mes cahiers, mes habits, même le petit costume marin que je ne portais que le dimanche, ma trousse de toilette qui sentirait bientôt le moisi avec les trucs du matin qu'on n'avait pas le temps d'essuyer. Je n'étais plus Benoît, j'étais 113. Pour tout, pour les appels, les punitions et le cahier où le surveillant notait quand on lui demandait un lacet. Oui, toujours un à la fois, jamais une paire. Comme si j'usais plus d'un lacet que de l'autre. Comme un cheval qui pèserait plus sur une jambe et qu'on ne ferrerait qu'à moitié. Ah, mais c'est peut-être pour ça que j'aimais tant les chevaux. J'en étais un, moi aussi, à ma façon. un frère de cheval, mon très cher père.
Numéro 113, vous avez parlé ce matin sur la passerelle, vous aurez 20 points.
Oh, ben ça c'était pratique.
113, vous aurez 20 points. 20, vous aurez 113 coups de pied dans le cul, et vous me copierez 113 fois, je ne dois plus parler à mon petit camarade quand je me trouve sur les rangs.
Sur les rangs, à la passerelle, en sortant du réfectoire, en montant au dortoir.
113! Vous me copierez 20 fois la page 1187 du Petit Larousse. Oui, celle où il n'y a pas d'image, celle où il n'y a pas la moindre lettrine mordant sur le texte.
Celle où il n'y a pas le moindre souffle. On devrait penser à protéger le droit moral des enfants, comme on a pensé à protéger le droit moral de l'artiste créateur. Les enfants aussi sont des créateurs. Ils font l'insouciance, et c'est primordial, l'insouciance, non ? Oh, j'ai beaucoup de respect pour monsieur le petit Larousse, mais s'il avait eu un peu de tendresse et de complicité pour les petits, il aurait supprimé le verbe copier de la langue française.
Vous me chanterez 113 fois le verbe copier, mon très cher flic, de la page 1187 du Petit Larousse, sans une image, sans une lettrine, sans le moindre souffle, avec beaucoup de larmes.
Pour arriver à mon collège, enfin, il fallait sauter une heure. Passer la douane, j'avais une heure de plus. Le temps mesuré par les hommes devrait se mettre au pas du cœur et de la fantaisie. La semaine des hommes ne m'a jamais réussi. Je me sentais déjà littéraire. Et malheureux.
Je m'appelle Reine, et toi ? Misère, Benoît Misère, et mon père s'appelle Pierre, et ma mère Sophie, et ma sœur Jeanne.
Oui, j'avais l'impression de lui réciter le bottin. D'ailleurs, c'était mon seul bottin. Court, mais à jour.
Reine ? Vous avez parlé avant le Benedicamus, vous aurez 20 points de moins.
Ah ben et moi ? On ne m'avait pas vu ? Mais moi aussi j'avais parlé avant le Benedicamus. J'en avais dit plus que Rennes, j'avais dit mon nom, celui de ma sœur, celui de mon père, celui de ma mère. Ah mais j'avais envie de crier, « Ouais, mon père, moi aussi j'ai parlé avant le Benedicamus et j'en ai dit plus long que Rennes. » Mais je n'ai rien dit. Je me suis tu. L'instinct de conservation qui fait les hommes vraiment seuls au monde. En cette même seconde, j'apprenais ce que cela signifie. Être peinard. Tais-toi, mon petit. Tais-toi. Chaque fois que Reine m'adressait la parole, oui, on me l'avait accolé partout, à la promenade, à la messe, au dortoir. Chaque fois que Reine m'entretenait, « Ouais, file-moi ta part, demain rue, et ce soir, on a compo d'histoire, et au foot, t'es un minable, et demain, on a promenade !» Je m'inventais mille répliques qui me lavaient du silence des cons, et Reine devenait alors un parleur d'étoiles. Misère ! Sacré cochon de misère ! Plus tard, nous trancherons sur la vie, nous nous mettrons à l'écart dans les rues comme des bandits de lune avec des croissants idem plein les yeux. Et nous cracherons des poésies nouvelles et révolutionnaires à la gueule de tous nos très chers pères. Oui, oui, reine, mon cher roi des gueux, plus roi que reine, puisque couillu plus reine que Néfertiti, aîné de je ne sais quoi, de mes parcelles d'oiseaux tristes, cachés trop profonds sous ma peau, pour que je les délivre de mon petit mal quotidien. Un jour nous porterons partout le message du petit enfant assis et enchaîné. Ouais! Et moi, je partirai tout seul, avec rien autour, sans me retourner jamais. Qu'est-ce qu'il pouvait me faire rire, reine, quand je me parlais tout seul? Thank you.
C'est la fin du Ferry Club.
Sur Radio Libertaire.
À la semaine prochaine.
Au plaisir de vous revoir.
Lui mets-tu la main sur les couilles quand il a comme le cœur qui pétouille. Lui passes-tu les doigts dans les cheveux quand il y a du mou dans la corde à nœud. Je dois te le dire, la main sur le cœur, ça peut servir en cas de bonheur.
Des boiseux, l'Amazonie. Le désert avance en Afrique. Les forêts européennes dépérissent, atteinte d'une maladie de langueur. Tant qu'il y aura mort arbre, le poumon de la terre sera malade. On pensait l'orme invulnérable. Partout, l'orme se meurt ou agonise. On croyait le platane indéracinable. Il a suffi d'un champignon microscopique. L'arbre est né avant l'homme et mourra bien après lui. La patience du chêne. On confère un sommet pour la forêt. On accuse à tort et à
malgré le droit, contre toute injustice, ils ont dressé le sinistre échafaud.
Elle est debout, la sanglante machine, et l'on attend que la main des bourreaux vienne trancher la sublime existence du compagnon que nous pleurons tout bas. Le ravachol qui souriant d'avance, en les narguant, gaiement va au trépas. De Montbrison, gardons la souvenance, il est tombé, martyr de nos idées. Le jour viendra, nous avons l'espérance. Oui, ravachol, nous saurons te venger. Oui, ravachol, nous saurons te venger.
Ils étaient là pour accomplir leur crime, les descendants des bandits versaillais. Pâles et tremblants, à la face jolie, à Montbrison, comme étant leur forfait.
Je te salue, ô compagnon sublime, qui fit trembler les tyrans aux abois.
ton souvenir reste dans nos poitrines, ton nom gravé en lettres de combat. De Montbrison, gardons la souvenance, il est tombé, martyr de nos idées.
Bonjour à toutes et à tous, il est 17h et nous sommes le mercredi 26 février 2025. Nous sommes en direct, 1h30 pour partager sur des livres, des événements historiques, toujours relatés dans des livres. 1h30 jusqu'à 18h30 à écouter au fil des pages sur Radio Libertaire. Frédéric qui s'est remis de sa grippe, Agnès, Marie, Francis et aujourd'hui notre ami Ramon Pinault, pour nous parler du livre « Français libre et républicain espagnol contre le nazisme », c'est-à-dire « Les carnets du capitaine Drone », publié par l'association du 24 août 1944. Nous en reparlerons en milieu d'émission. Frédéric, des annonces ? Pas d'annonce. Bien. Alors, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous envoyer des messages aussi sur le blog du groupe Commune de Paris. Pour nous écrire, vous écrivez à la librairie Publico, 145 rue Amelot, Paris 11e. Commençons tout de suite par la première partie pour alimenter le débat, un premier livre, une réédition et une interpellation. Le livre s'appelle « Ombre chinoise ». Il y a toujours un plaisir malicieux à relire quelques pamphlets de notre XXe siècle, sans doute parce que nous avons vécu certains événements, entendu de doctes propos énoncés par des auteurs au style affûté. Et Simon Lay est un écrivain de renommée internationale, essayiste, sinologue et professeur d'université. Il sait, justement, tailler une réputation redoutable dans sa dénonciation du régime maoïste par son livre « Les habits neufs du président Mao » publié en 1971 et il récidive à deux autres reprises avec « Ombre chinoise » et « Images brisées ». Et quand je me moque des doctes propos énoncés par des auteurs au style affûté, c'est bien évidemment de tous ces universitaires qui encensaient le régime maoïste quand on sait ce qu'il en était dans la réalité. Venons-en à Ombre chinoise que rééditent les belles lettres. Pour ceux qui ont vécu le maoïsme triomphant, justement, de ces intellectuels européens, voilà qui nous fait sourire tristement. Comment a-t-on pu être grugé à ce point ? Y compris nous, nous étions, enfin moi j'étais lycéen, certains étaient étudiants, d'autres dans la vie active. Bah, n'oublions pas que d'autres sommités progressistes ont exprimé leur adoration à l'égard du régime soviétique ou de la dictature cambodgienne. Donc il y a toujours de la part des intellos une démarche à accepter l'inacceptable. Que n'a-t-il reçu comme insulte, Simon Lay, de la part des politiciens, hommes d'affaires et autres sinologues parisiens ? La préface de Jean-François Revel date un peu. Il faut savoir que les éditions Les Belles Lettres rééditent telles quelles les ouvrages. Bon, c'est intéressant. Elles datent un peu, mais il faisait... Revel, partie de ces personnes qui refusaient le totalitarisme, et il écrivait qu'un système totalitaire peut s'effondrer, il ne peut pas s'améliorer. C'est vrai. Les révélations caustiques de Simon restent dans l'acquis à jamais, cher à Thucydide, l'historien de l'Antiquité. Si les n'avait pas cité Orwell d'entrée de jeu, nous y aurions immédiatement songé. Au fil des pages se révèle la dictature, avec ses forces de répression, sa novlangue, sa mémoire sélective, sa volonté de destruction et d'annihilation de la pensée. L'écriture de Simon est sympathique, dynamique, belle d'ailleurs, et un style enlevé rend encore plus redoutable la critique de la part de cet homme qui, lui, aime la Chine et se désole de ce qu'il voit et de ce qu'il ne peut pas voir. Ainsi, la surveillance permanente dont il fait l'objet rend difficile les échanges avec la population qui, ayant subi la révolution culturelle, devient muette, et on les comprend. Les étrangers visitant la Chine dans ces années-là sont parqués dans les villes, comme en URSS. Ainsi, les adorateurs occidentaux de Mao ne connaissent pas la réalité de la Chine. La surveillance par les bureaucrates est oppressante.